Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Immo, bienvenue sur Radio Immo. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. J'ai le plaisir d'être avec Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Bonjour Bérénice et bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Mieux, ce serait de la gourmandise. Méthode Coué.
C'est vrai.
Méthode Coué, voilà.
Ouais.
Vous savez ce que disait Victor Hugo ?
Oui.
Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours.
C'est beau.
Voilà.
C'est beau.
Magnifique.
C'est très beau. Merci de bon matin, là, le vendredi avant, c'est génial.
Bon appétit.
Bon, on accueille notre invité, Olivier Bugette. Bonjour.
Bonjour.
CEO de la boîte IMO. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, le Mac de l'IMO, c'est votre émission, hein, puisqu'on va parler de vous exclusivement, de la boîte IMO aussi, de votre parcours. Vous êtes également aux commandes de la programmation musicale. D'ailleurs, on vient d'écouter votre première musique, Doumea et France Gall pour Résiste. Pourquoi ce choix ?
Parce que dans le contexte qu'on connaît, c'était un petit clin d'œil à nos amis agents immobiliers indépendants en leur disant « Résiste,
sachez résister,
prouve que tu existes et puis ça va passer et puis ça ira mieux. »
Bon.
Total respect. Hein,
ouais, c'est vrai.
Voilà, France Gall.
Et puis parce que j'aime la variété française et que celle-là, en plus, elle est un petit peu remixée et elle est sympa.
C'est vrai que c'est un remix, oui, de Résiste. C'est vrai qu'elle est très sympa. Bon, alors, Olivier, on commence l'émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on demande à l'invité de se présenter en quelques phrases.
Alors, sur un registre un peu plus personnel, hein, si j'ai
voulez.
Compris.
Derrière ce mandat de CEO, de patron immobilier français, on aimerait bien savoir qui est l'homme qui se cache derrière tout ça.
Il ne se cache pas grand-chose. Moi, je m'appelle Olivier Bugette, j'ai 45 ans, je suis le papa de deux garçons qui s'appellent Martin et Gaspard et qui ont 9 et 13 ans. Je suis marié depuis très longtemps et je dirige cette entreprise depuis très longtemps aussi. Voilà.
Avec combien d'années vous êtes à la tête de la boîte IMO ?
La boîte IMO a eu plusieurs vies. Elle a commencé réellement il y a 19 ans. À l'époque, elle s'appelait Pigimo. C'était une société spécialisée dans la pige immobilière qui a évolué ensuite à une boîte à outils un peu plus complète pour les professionnels de l'immobilier, d'où l'évolution de ce nom.
Alors, justement, la boîte IMO, qu'est-ce que c'est actuellement pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout ?
Actuellement, la boîte IMO, c'est une maison qui accompagne ses adhérents dans leur quotidien. Ses adhérents sont des professionnels de l'immobilier, tous indépendants, donc des agents immobiliers de terrain répartis un peu partout en France. Et notre vocation, eh bien, c'est de les assister au quotidien dans leur mission de tous les jours auprès de leurs clients acquéreurs et de leurs clients vendeurs, et ce, au travers de la technologie.
Donc avec des outils.
Avec des outils, nous sommes éditeurs de logiciels.
Vous êtes éditeur de logiciels.
Entre autres, oui, bien sûr, oui. Donc,
éditeur de logiciels. Par contre, vous ne faites pas d'immobilier.
On ne fait pas d'immobilier du tout.
Vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas.
Alors non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'apporter notre soutien à nos clients qui eux font de l'immobilier. On leur apporte notre soutien par des outils qui leur permettent de s'organiser, qui leur permettent d'animer, qui leur permettent de gagner en visibilité et qui leur permettent également de se regrouper. C'est notamment le cas de notre plateforme Intercab, qui aujourd'hui, on en est très fiers, regroupe nos 8500 clients et plusieurs centaines de milliers de mandats qui sont mis à leur disposition pour les accompagner dans leur business.
Et vous travaillez essentiellement sur la transaction ou vous faites aussi de la gestion et du syndic?
Alors,
dans les activités?
Nous sommes spécialisés dans la transaction depuis très longtemps et depuis peu de temps, nous faisons maintenant de la gestion locative également, puisque nous avons sorti un nouveau produit il y a à peu près, il y a quelques temps, qui s'appelle Oscar et qui est un petit cousin d'Hector et qui permet de gérer ses lots en toute sérénité et qui est très automatisé.
Alors justement, on va en parler d'Oscar.
Hector, c'est d'ailleurs le logiciel, un des logiciels les plus connus sur le marché.
Bah écoutez, en tout cas,
on l'appelle le logiciel des indépendants, vous aimez bien cette phrase ?
Je l'aime beaucoup cette phrase, oui. Oui. C'est le logiciel des indépendants. Aujourd'hui, la plupart des indépendants.
Quand on est en réseau, on n'a pas Hector.
Non, on n'a pas Hector quand on est en réseau, c'est vrai. Et quand on est indépendant, et ils sont une majorité à l'avoir, effectivement, et ça, on en est très fiers.
C'est intéressant, et c'est bien que vous soyez là pour en parler, parce que surtout, vu le contexte du marché, Olivier Bugette, ça a été l'un des premiers à miser sur les indépendants. Vous savez, ceux qui n'ont pas de. Vous avez des agents immobiliers, des mandataires, vous avez des agents immobiliers, et vous vous êtes dit, c'est pas les réseaux qui m'intéressent, c'est le agent immobilier du coin, du quartier, de la petite localité qui est votre client naturel, et vous en avez, je crois, 8 ou 10 000, je crois, maintenant.
Un peu entre 8 et 10 000, toutes prestations, toutes marques confondues, oui.
Vous êtes le plus gros aujourd'hui ?
Je crois.
Non, mais en volume, c'est un fait.
En volume sur les indépendants, oui, clairement.
Oui, c'est un fait.
Ouais. Oui, clairement,
c'est
un fait.
Et justement, comment avez-vous cette idée, comme l'a dit Sylvain, pourquoi avoir misé sur les indépendants?
Ça, c'est une question. En fait, sincèrement, ça serait me faire beaucoup d'honneur de vous dire que j'ai eu cette idée il y a 15 ans et que ça a été une stratégie. Ça s'est fait naturellement, en fait. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes des indépendants. Nous sommes une petite boîte franco-française. Nous sommes une PME qui fonctionne en autofinancement depuis le premier jour.
Oui,
et que
vrai,
moi-même,
ouais,
je viens de ces agences indépendantes et que naturellement on se comprend et c'est vrai que cette indépendance aujourd'hui qui est la nôtre, eh bien, elle nous caractérise puisque je crois qu'on est la dernière entreprise du marché à ne pas avoir rejoint un fonds d'investissement anglais ou américain.
Et ça vous a pas tenté?
Oui, c'est ça.
Alors écoutez...
Aucune levée de fonds, il n'y a rien eu.
Jamais, non.
Jamais autofinancement depuis le début.
Il y avait quand même le Figaro dans le capital, me semble-t-il.
Alors, autofinancement à 100% depuis le début. Oui. Il y a une dizaine d'années, on a eu l'occasion d'acheter une activité du Figaro.
Classique,
et on a trouvé un deal capitalistique. À l'époque, ça ne les intéressait pas vraiment qu'on leur fasse un chèque. Ils préféraient qu'on leur fasse plutôt une petite place à notre capital. Et aujourd'hui, ils ont 10% de la boîte IMO. Donc, et on a de très bonnes relations, mais on est très, très, très indépendants.
10% quand on s'appelle Classified et qu'on est une filiale directe du groupe Dassault, mm-hmm, plutôt pas mal, non?
Ouais. Ouais.
Ça, est-ce que ça sert vos intérêts ou pas?
Alors, sincèrement, on a de très bonnes relations. D'accord. J'étais sur le plateau de Figaro Immo tout à l'heure, par exemple. Mais on travaille pas énormément ensemble. On a racheté, d'accord, cette activité qui s'appelait à l'époque ImmoVision, qui était un des leaders du logiciel de transaction. Et ça nous a permis, là aussi, de grandir et d'accélérer notre croissance. Mais sincèrement, je peux pas vous dire qu'aujourd'hui, on travaille
stratégiquement parlant,
énormément.
Ça a pas changé.
Non.
Est-ce que vous vous rappelez cette tribune signée Benjamin Salah, je peux le dire, puisque c'est public, qui avait fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, qui fustigeait les fonds d'investissement? Qui disait que c'était une vaste machine à incinérer des fonds propres, qui alertait les gens en disant que vous achetez avec des valeurs folles. Il n'avait pas tout à fait tort, hein, avec quand même des capex qui étaient quand même surréalistes, hein, il faut le dire. Ce mercato est un peu terminé depuis quelques temps, puisque depuis 18 mois, c'est un peu. Mais justement, alors, pourquoi je vous parle de Benjamin Salah? Est-ce que vous faites partie de ces entrepreneurs qui disent, par exemple, bah, il n'y aura pas d'un fonds d'investissement chez moi, parce que mon objectif, c'est de faire grandir l'entreprise, peut-être de la céder à mes salariés, peut-être d'avoir une équipe de gouvernance ou de dirigeants qui prendront naturellement la suite. Est-ce que vous faites partie de ces entrepreneurs, à l'instar peut-être d'un Philippe Briand, qui concentre à lui-même aujourd'hui un nombre incalculable de marques qu'il a rachetées et dont il contrôle 98% du capital? Est-ce que vous faites partie de ces entrepreneurs-là, ou est-ce que vous dites, bah, j'ai 45 ans, je verrai peut-être le jour dans quelques années en disant, voilà, j'ai fait une belle réussite, et c'est vrai qu'on en reparlera par un autre parcours, parce que c'est un parcours d'autodidacte réel que vous avez fait. Est-ce que ça, c'est à l'heure du jour ou pas du tout?
Ce n'est pas du tout à l'heure du jour. Je suis beaucoup plus inspiré par des...
Qui vous
appellent,
hein, tous les jours, toutes les semaines, on vous sollicite?
Tous les jours.
C'est vrai?
J'ai plusieurs mails par jour de fonds d'investissement. Oui. Il en existe des milliers.
Oui. À 45 ans, vous pourriez vendre et prendre votre retraite demain.
Ouais.
Et depuis longtemps. Ça fait 10 ans que j'aurais pu vendre et prendre ma retraite. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. C'est plus qu'un... C'est pas un travail pour moi, la boîte IMO. C'est une mission, c'est quelque chose qui m'anime. Au quotidien, c'est ma mission, c'est on m'enlève ça, je vous cache pas que ça va me faire un grand vide et qui sera certainement pas comblé par des virements bancaires. Oui, je l'ai fondé tout seul, effectivement, il y a 15 ans maintenant, et je suis aujourd'hui beaucoup plus inspiré par des capitaines d'industrie comme Philippe Briand.
Vous avez un associé au tout début?
Pardon?
Vous avez un associé au tout début?
Il y a 19 ans, quand j'ai créé Pigimo, je l'ai créé avec un vieux copain d'école, mais il y a 15 ans, quand j'ai créé la boîte IMO, j'étais seul.
Et alors, pour expliquer juste à nos auditeurs, parce que vous parliez des fonds, et c'est vrai,
je ne suis plus seul. J'ai depuis fait entrer au capital les gens de mon board, les directeurs techniques, commerciaux, les
c'est
DAF.
Donc ils sont rentrés dans le capital, hein.
Oui, aujourd'hui ils sont en capital.
C'est quoi, c'est des stocks, c'est des BSPCE,
on a diverses formules pour
mais
ça.
Mais vous contrôlez le capital.
Je suis aujourd'hui l'actionnaire majoritaire de l'entreprise.
À combien?
J'ai 67%, je crois, de la boîte IMO.
Et alors, pour faire le lien, vous parliez des entreprises, hein, des startups qui sont issues du venture capital, donc qui misaient sur le développement. Vous, c'est totalement l'inverse. Vous avez tout de suite misé sur la rentabilité.
On a misé sur la liberté et l'indépendance, en fait.
Mais c'est ça, surtout, l'autofinancement, c'est être rentable.
C'est ça. Et nous, on n'a jamais rendu un bilan qui ne soit pas excédentaire.
Vous l'avez fait, mais ça vient d'où, ça, Olivier Bugette? C'est votre côté, votre bon sens paysan, commerçant, qui fait que vous dites, on va d'abord être rentable avant même d'envisager quoi que ce soit.
Moi, je conçois pas les affaires autrement que comme ça. Je veux dire, quand on gère une entreprise ou quand on gère un budget de famille, quand on a 3 sous, on n'en dépense pas 4. Et on fait avec les 3 sous qu'on a. Donc,
ça va vous rendre fou quand vous voyez les mercato qu'il y a eu depuis.
Honnêtement, c'est pas tant que ça me rend fou, c'est que je vous cache pas que ça fait des années que j'observe d'un œil très intéresser ce qui se passe autour de nous et en fait je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a énormément de boîtes qui se sont développées à des vitesses fulgurantes. Nous on est assez fiers de notre développement par exemple, mais il nous a pris 15 ans. Quand je vois des copains à moi qui font mieux, plus, beaucoup plus fort en 3, 4, 5 ans, je me dis mais en fait t'es nul. Eux ils sont incroyables parce qu'ils lèvent des fonds. Moi, j'ai des copains qui ont levé des 100, 200, 300 millions d'euros.
Ah, quand même.
Sauf qu'aujourd'hui...
C'est plus dur.
C'est pas que c'est plus dur, c'est que quel exemple vous avez de réussite dans la PropTech, d'entreprises qui ont fait des très grosses levées de fonds et qui aujourd'hui sont à l'équilibre ou même existent encore.
Pas dans la PropTech, mais vous avez Facebook.
Je vous parle pas des GAFAM, je vous parle de la PropTech française.
J'en connais une.
Alors laquelle ?
Les agences de papa. Non, j'ai... humour.
Non, mais c'est...
Mais moi, j'en connais plusieurs. Après, et sincèrement, je m'en réjouis pas. J'aurais préféré que ça se passe mieux. Mais aujourd'hui, on voit très bien que ce modèle est à bout de souffle et que concrètement, lever des fonds, créer comme ça des empires qui sont de papier...
Mais vous leur dites quoi, vous ? Parce que quand même, vous êtes connus dans le métier. Vous participez. Moi, je vois souvent sur les événements. On se connaît depuis longtemps. Vous leur dites quoi ? Vous leur dites, mais attendez, vous avez vu la bière. Vous rêvez, vous êtes... Qu'est-ce qui vous prend ? Vous vous rappelez une fois, quand on était à la Villette, il y avait les... Monsieur Jaime de Bourbon et de Deux Siciles, qui était le directeur général de Plug and Play. Est-ce que vous vous rappelez de ça ?
Oui, je m'en rappelle, qu'il venait des États-Unis.
Sur Radio Imo, on était sur la mezzanine, d'accord ? Je crois, il me semble bien d'ailleurs qu'un certain Julien Villeneuve n'était pas très très loin de cela. Je crois même qu'il était à l'origine d'ailleurs de ce rendez-vous. Hein, Jaime, Bourbon, adorable hein, le type. Mais alors le discours était surréaliste, ça, mais vous devez vous dire, mais comment vous vivez ? Parce que vous voulez voir, en plus vous êtes plutôt ingénieux, vous voulez regarder les PropTech. Vous êtes toujours très intéressé, vous êtes toujours à l'affût. Ça, c'est clair, il n'y a pas de douche.
Je suis intéressé par mon secteur d'activité, clairement.
Bien sûr.
Regardez, mais ce que vous dites, c'est que ce business model n'est pas compatible avec le milieu de l'immobilier.
Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis, c'est qu'on ne fait pas le même métier.
Expliquez-nous pourquoi vous dites ça.
Moi, aujourd'hui, je crée et je développe une entreprise pour qu'elle vive, pour qu'elle soit autonome, indépendante et rentable, d'accord ? Pour qu'elle puisse avoir une certaine stabilité, une certaine garantie, un certain confort.
Vous pourriez prendre un fonds pour dire je consolide cette solidité.
Oui, sauf que moi, je le fais avec une visée entrepreneuriale. Là, on est... On est dans des schémas qui sont complètement différents, où on ne cherche en aucun cas à arriver à l'équilibre, on cherche à créer de la croissance pour créer encore plus de croissance. Parce qu'à chaque fois qu'on crée de la croissance, on fait rentrer de nouveaux fonds et on valorise sur la base de cette nouvelle croissance créée. Et donc, on fait du cash out. Et ce cash out lui-même nous permet de créer de la richesse et de la valeur.
Pouvez-vous expliquer à ceux qui nous écoutent ce que c'est que le cash out ? C'est intéressant.
Le cash out, c'est simplement l'effet de prendre une partie de ce qu'on a construit au passage à l'entrée d'un nouvel actionnaire. Donc, je crée une entreprise. J'estime au bout de 3 ans ou au bout de 3 mois pour certains qu'elle vaut 10 millions d'euros. J'ai un actionnaire qui rentre, je lève par exemple 10 millions d'euros de plus, je sors et une partie de mes actions, je les convertis en cash et donc je fais du cash out. Et en fait, à aucun moment...
Ça vous le faites pas.
Moi j'ai des amis qui ont levé des centaines de millions d'euros
et qui
me disent, mais moi... Je suis capable de créer des valeurs incroyables, mais ne me demande pas de faire un euro de rentabilité. Je ne sais pas faire et j'en ai rien à cirer de faire ça, en fait.
Vous devez halluciner.
On n'est pas de la même école, quoi. Moi, je suis d'une école un peu plus terre à terre, quoi, un peu plus basique.
En tout cas, c'était cette école qui résiste en cette période de crise, justement.
C'est intéressant ce que dit Olivier Bugette, au-delà de vous, Olivier Bugette. C'est ce que ça inspire, si vous voulez, à des jeunes qui nous écoutent.
C'est le retour du bon sens, en fait.
Ça a fait triper tout le monde de dire j'ai levé X millions d'euros. On peut le dire, puisque ça a été public, c'est vous qui avez fait l'interview du patron de Mastéos.
Ah bah oui, ça a été public, bien sûr.
Bérénice, vous avez posé la question, je vous cite. Mastéos, qui était une très belle machine, etc. Ils ont incinéré, tenez-vous bien, hein, vous le savez, 60 millions d'euros de fonds propres. 60 millions d'euros de fonds propres. Et à la question de Bérénice, qui était une question pleine de bon sens, pourquoi vous l'avez fait ? Il a répondu, je l'ai fait un peu par vanité.
Bah, il a été très honnête, oui. Après, après, faut quand même, je tiens à préciser que.
Vous imaginez ce type de réponse, etc.
Alors, c'était plus ça. Il s'est laissé un peu emporter. Et c'est vrai, vous l'avez dit, c'était une mode, hein. L'argent était facile. On perdait un peu pied.
Résultat,
de nombreux entrepreneurs ont perdu pied. Ça venait des États-Unis. Il y avait des fonds de venture capital qui faisaient que ça, qui misaient sur l'hypercroissance. Et c'est vrai que, c'est ce qu'il nous expliquait, c'est qu'on perd quand qu'on est capable de lever des millions comme ça, en un claquement de doigts, forcément. On crame du cash.
Il y en a qui ont essayé de vous taquiner.
Et
parce
qu'ils
sont allés sur votre modèle, sur vos modèles économiques. Il y en a plein. Vous les avez tous enterrés les uns après les autres. Donc c'est très intéressant. Mais vous connaissez, je plaisante un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que, au-delà de cela, vous avez finalement, est-ce que vous n'avez pas ce sentiment de dire, finalement, ce que j'ai créé, c'est solide?
Ça que franchement, pour être honnête avec vous, il y a peu encore, je me disais, franchement, t'as rien compris. C'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Il faut des croissances exponentielles avec des levées de fonds, surlevées de fonds. C'est ça le business, en fait. Et toi, tu t'es là à compter tes sous, à faire des budgets à l'équilibre, à embaucher quand tu peux embaucher, à investir quand tu peux investir. Et en fait, avec le recul, je me dis finalement, j'ai pas si mal fait. Et c'est le retour du bon sens qui est en train de primer sur l'économie, parce c'est que tout clair. Ça semble être un mirage qui est passé, et puis il y aura certainement d'autres occasions, d'autres époques.
Les entreprises que vous avez rachetées, les collaborateurs, ils sont perfusés à la même philosophie?
On essaie en tout cas de les intégrer le mieux possible et faire en sorte qu'on soit un et unique, indivisible. On essaie vraiment c'est ça aussi qui est important, c'est l'âme que l'on trouve dans des entreprises. Une entreprise qui passe de 0 à 400 personnes en 3 ans, c'est pas évident de créer un ADN commun, d'avoir un socle comme ça, référentiel pour chaque collaborateur. Ça va trop vite.
Combien vous êtes maintenant dans le groupe ?
Alors nous, on est un peu plus de 200, 210, quelque chose comme ça, mais encore une fois, on a mis 15 ans, on a été 2, puis on a été 3, et puis ensuite on a été 5, et puis ça s'est fait progressivement, donc on a eu le temps de
digérer.
Voilà,
tout ça,
c'est un petit peu comme un enfant qui grandit trop vite, c'est source de
et
problèmes.
Et du coup, votre ego ne s'est pas développé à la même vitesse non plus?
Écoutez, je crois pas.
Est-ce
non,
que ça vous a changé, Olivier Bugette? Parce que je rappelle que vous avez juste un BTS en formation, me semble-t-il.
C'est ça.
Bon. Que vous êtes un autodidacte, vous avez un côté très commerçant, très volontaire. Donc vous êtes ce qu'on peut appeler un self-made man, quelqu'un qui s'est fait par lui-même, ni par votre famille, ni par financement extérieur. Est-ce que ça a altéré cette réussite professionnelle, au-delà de la mythologie, l'argent, la réussite? Est-ce que ça vous a altéré ou pas? Est-ce que ça vous a changé?
Alors, de l'avis de ceux qui m'entourent, si on devait me conserver une qualité,
famille,
c'est celle-là.
Amis,
Si je devais garder un trait de mon caractère, c'est celui-ci, c'est que ça ne m'a absolument pas changé.
Peut-être après, parce que moi-même. Après, ça fait quand même partie de votre vie.
La facilité ne vous a pas changé en disant aujourd'hui, vous regardez la colonne de gauche, vous ne regardez pas la colonne de droite. La colonne de droite, c'est là où il y a les plats. À droite, il y a les prix. Vous regardez plus la colonne de gauche aujourd'hui.
Je regarde toujours les deux colonnes. Sincèrement, je pense que j'ai pas mal de recul par rapport à ça. Et vous savez, je suis entouré quand même de gens qui ont fait beaucoup mieux que moi. Donc ça apporte aussi pas mal d'humilité. Et puis, je suis comme ça dans mon projet, quoi. J'ai pas de particulièrement de distance. J'ai pas le même regard que vous pouvez avoir sur le temps qui s'est écoulé et ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit. Moi, je suis dans l'arrière-cuisine. Moi, vous savez, c'est un petit peu comme...
Rétrospectivement, est-ce que vous avez un peu un sentiment de bien-être, de vous dire quand même ce que j'ai fait, c'est pas mal, quoi.
J'ai un sentiment de satisfaction du travail accompli. J'avais beaucoup d'exigences par rapport à moi-même étant plus jeune. Je continue à en avoir beaucoup, mais quand même, je me sens un peu plus apaisé, clairement.
Non, mais je veux dire, dans votre famille, les proches qui vous ont connu avec rien, qui vous ont connu comme vous n'étiez rien, aujourd'hui, on a un sentiment quand même de fierté, pour le dire.
Oui, très clairement. Voilà. Ma maman est ma plus grande fan, mon papa est très content, et puis mes frères et sœurs aussi, et puis mes amis me suivent, et tout le monde est très content.
Vous aimez, c'est ça, le sens de la famille, le côté tribal, clan?
Beaucoup.
Très protecteur?
Oui, beaucoup.
D'accord. Ouais, est-ce que vous avez le sentiment d'être plutôt une âme protectrice?
Eh bien, écoutez, oui, c'est important pour moi de s'occuper de nos proches et puis d'être là. Mais c'est valable aussi pour nos collaborateurs. C'est en langue de bois. C'est voilà, quand on a la chance de pouvoir faire, on essaie de le faire. C'est important parce que c'est pas facile pour tout le monde et on n'est pas tous avec les mêmes chances. On n'est pas tous équipés pareil pour réussir dans la vie.
C'est le moins qu'on puisse dire. C'est intéressant ce que vous dites parce que dans le contexte que l'on connaît avec Bérénice, on gagne beaucoup d'entrepreneurs en ce moment. Et c'est vrai qu'il faut dire que ceux qu'on rencontre ces derniers temps, ils font un peu la gueule quand même, hein, parce que c'est dur, c'est très très dur. Et on voit bien toutes ces aspérités qui n'étaient pas forcément pensées. Et ça, c'est une question complémentaire que je voudrais vous faire avant qu'on rentre un peu plus dans le détail quand même des marchés. Ça fait 10-15 ans qu'on rase à plus ou moins gratis dans l'immobilier, avec des rentabilités à deux chiffres, un argent qui coûtait plus rien. Enfin, c'est hallucinant. Bon, moi, à l'âge vénérable que j'ai quand même connu 3 crises, dont une où on empruntait à 16. Hein, donc c'était quand même... il n'y avait pas le même taux d'inflation, ça c'est vrai. Le retour à quelque chose de plus sain, de plus professionnel, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire? Est-ce que vous vous dites que finalement tout ce bouleversement est propice au changement?
Je me dis surtout que ce bouleversement, il est peut-être salutaire parce qu'on arrivait à des valorisations aujourd'hui.
Est-ce que c'était pas un peu facile de faire de l'immobilier, Olivier Bugette? Objectivement, je caricature pas, hein, mais est-ce que finalement ça a été pas un peu le mercato là depuis 10-15 ans?
On sort de 5-6 années qui ont été particulièrement fastes, où on a dépassé le million de transactions chaque année. Oui, maintenant, dire que c'est facile, il y a eu beaucoup d'opportunités. Ça a été peut-être plus simple qu'à d'autres époques. Pour les agents immobiliers, maintenant, vous savez, on est sur un marché où il faut toujours arriver à convaincre soit un propriétaire, soit un acquéreur. Mmh. Et tant aujourd'hui, il est facile de rentrer du mandat, tant il est difficile de trouver des acquéreurs, notamment solvables. Eh bien, pendant ces 5-6 dernières années, c'était quand même très difficile de trouver des propriétaires qui voulaient bien vous confier leurs biens et leur mandat, parce qu'ils savaient la valeur que ça avait, la facilité que vous auriez à les vendre. Donc, c'est jamais un métier facile, en fait. Il faut toujours arriver à coordonner cette fameuse offre, cette fameuse demande. Donc, il ne faut pas non plus dire ah, attendez, ça fait 5 ou 6 ans, il y a tout qui se fait tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est jamais vraiment simple. Mais c'était plus prolifique, plus rentable en tout cas depuis 5 ou 6 ans, c'est vrai. En ce moment, on est plus dans une période un peu de vache maigre, c'est clair. Mais on arrive à un marché qui reste normatif. Même si on affiche une baisse de 20% des transactions, ce qui peut paraître énorme, ça n'empêche pas qu'on retrouve un marché qui est celui qu'on avait il y a 5-6 ans en arrière.
Et justement, dans quel état d'esprit sont les mandataires que vous accompagnez, qui sont vos clients?
Sont clients de la boîte IMO?
Très peu. C'est difficile de vous répondre. C'est pas ça. C'est qu'on a des modèles qui aujourd'hui évoluent. Et moi, j'ai des clients historiques qui se sont dit à un moment donné, tiens, j'ai monté 2, 3, 4 agences, et puis à un moment donné, qui se sont dit aussi, bah tiens, je vais créer un petit peu des mandataires parce que j'ai des opportunités, etc. Donc, on a aussi ce genre de modèle dans notre clientèle. Mais c'est vraiment anecdotique.
D'accord. Donc, je repose ma question. Concernant les agents immobiliers qui sont vos clients, dans quel état d'esprit ils sont, vous qui êtes au quotidien, enfin qui...
Bah écoutez, la plupart sont des professionnels aguerris qui ont un certain... historiques et qui connaissent leur marché, donc ils sont relativement sereins. Franchement, j'ai pas vu de vent de panique sur le marché. Les professionnels avertis qui ont déjà connu
vous dites quand même, il y a eu, si je vous demandais de choisir un chiffre entre 20 et 30, vous diriez combien? 21, 22, 23, 24, au hasard.
Entre 20 et 30 quoi?
Un chiffre entre 20 et 30, voilà. Donnez-moi.
Allez, 26.
26, ah, oui. Pas mal. Vous êtes à un point près du nombre d'entreprises qui ont chuté en pourcentage. 27% des agences immobilières ont déposé leur bilan dans les 18 derniers mois.
Alors,
tout confondu.
Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec ces chiffres-là. Je vous le dis très clairement. Moi, aujourd'hui, on a à peu près 10 000 clients. Donc, on a une représentativité du marché quand même qui est pas neutre.
Combien vous dites d'agences ont disparu? Non, parce que je vous donne les chiffres de la PNAIM.
D'accord, mais en tout cas, ce ne sont pas nos chiffres. Peut-être que les indépendants sont plus résilients et ça pourrait très bien s'expliquer.
Alors,
ils ont peut-être des frais et des charges moindres que les autres.
Il est aussi syndiqué à la PNAIM.
Pas toujours.
Mais ça peut.
Ah oui, ça peut, bien sûr.
Aujourd'hui, on est pas loin. Juste sur les 7 derniers mois, 1400 défaillances d'entreprises, agences immobilières, carte T. Si on prend le nombre d'entreprises qui étaient encartées, hein, je prends le nombre encarté, et que l'on prend le chiffre recoupé des défaillances des 6 derniers mois, on n'est pas loin de 27%.
Alors attendez, 1700 sur 7 mois, 1400 sur 7 mois, rapporté à quoi ? 35 000 professionnels ?
Alors on était sur 31 000 encartés.
31 000 encartés, donc ouais. On est à quoi ? On est à 5%.
Oui, non, mais repris sur l'année, on était à pas loin de 7 000... non, attendez, 30%, 27% de 31 000, ça fait
pratiquement... Ça fait beaucoup trop, à mon avis. Bah, en tout cas, c'est pas ce que je constate.
Alors, vos chiffres, du coup, le chiffre de la boîte IMO.
Alors, c'est quoi ? Je suis pas venu avec les chiffres du nombre d'agences qui ont défailli dans notre portefeuille, parce que je ne les ai pas, mais on est, moi, je le constate au niveau des résiliations pour liquidation, hein, tout simplement. J'ai des reportings tous les mois qui m'arrive, ah oui. Où on me dit, bah, aujourd'hui, voilà les clients qu'on a perdus parce qu'ils sont en liquidation ou parce qu'ils sont en redressement judiciaire. Donc moi, ça, je le suis depuis toujours. D'accord. Et je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a certes, en 2023, eu davantage de résiliations liées à ces redressements ou à ces liquidations, mais on n'est pas du tout dans ces ordres-là. Et heureusement, j'aurais perdu une part de ma clientèle hyper importante.
Alors, j'aimerais bien passer à la suite.
Alors,
parce que
pas les indépendants, l'horloge tourne. Pour pondérer qu'il y a aussi les mandataires qui ont arrêté de travailler.
Là, c'est différent, oui, parce qu'ils sont beaucoup plus concernés par ce phénomène.
Alors, j'aimerais bien qu'on parle maintenant du rachat de Protexa, qui fait partie de votre actualité. Alors, expliquez à nos auditeurs donc pourquoi ce choix. Voilà, comment ça s'est passé.
Bah, écoutez, Protexa, c'est une société qui officie dans le juridique et dans le juridique pour le monde de l'immobilier. C'est une marque qui est ancienne, qui a plus de 20 ans et qui est très connue des professionnels de l'immobilier. Elle est utilisée, alors je vous parle, par plus de 6000 professionnels, et ça nous tenait beaucoup à cœur, eh bien, de récupérer ce savoir-faire et cette technologie auprès de leur fondateur, parce que c'est une famille qui était désireuse de pouvoir se consacrer à d'autres activités après plus de 20 ans de bons et loyaux services.
Ça fait un moment.
Voilà, et puis comme on a beaucoup de nos clients qui utilisent cette technologie, ça nous tenait à cœur que ce soit nous qui puissions leur assurer le suivi et l'usage de ces outils qui, pour la plupart, consistent à accompagner les agents immobiliers dans leurs exigences, dans leur obligation loi Allure, et notamment celle de tenir à jour des registres électroniques de leur mandat.
C'est quoi ? C'est finalement une façon d'archiver l'ensemble des mandats numérotés, avec un tiers de confiance qui leur garantit l'archivage.
Et puis c'est une façon aussi...
C'est une exigence légale, me semble-t-il.
Absolument. Mm. Et puis c'est une façon aussi d'améliorer le process. Lorsque je suis sur le terrain et que j'ai besoin d'un nouveau numéro de mandat, j'ai tout un service informatisé qui me permet...
Est-ce que pour vous, c'est une façon aussi de conquérir de nouveaux clients quand on rachète ce type d'entreprise ?
C'est une façon d'améliorer...
Cross-selling sur l'ensemble des produits. Oui.
C'est une façon d'améliorer l'exhaustivité de notre capacité à accompagner l'agent immobilier dans toutes ses facettes, d'une part. Et puis oui, bien sûr, dans ce portefeuille client, il y a bon nombre d'agences qui ne travaillaient pas encore avec nous, avec nos outils, et que nous allons nous empresser, évidemment, de contacter et de solliciter, bien sûr.
Un petit mot peut-être sur l'intelligence artificielle aussi, avec un nouvel outil d'assistant personnel.
C'est quoi, Absolument. C'est le ChatGPT version améliorée ou...
C'est mieux que ça, c'est ChatGPT tout court, en fait, que l'on intègre directement dans nos outils, et en l'occurrence...
Donc il y a un onglet ChatGPT, c'est intégré l'abonnement dedans ?
On a notre propre version ChatGPT que l'on éduque, que l'on alimente, notamment avec les textes loi Allure, par exemple, et que l'on intègre à nos outils, notamment à notre CRM Hector, et notre volonté, c'est dans les 3 à 4 prochaines semaines de livrer un nouvel assistant personnel à nos clients, qui va permettre à chaque agent immobilier sur le terrain d'avoir dans sa poche un assistant, en l'occurrence au travers de son application mobile Hector, qui lui permettra de répondre à n'importe quelle question d'ordre juridique, technique, fiscale, mais également de pouvoir lui mâcher le travail en lui préparant des brouillons de mail, en lui préparant des rendez-vous, en lui préparant des fiches d'appartement, de maison, des fiches acquéreurs, des fiches vendeurs, et tout ça avec la voix. Donc dans les 3 à 4 semaines qui viennent, on va livré. Oui, ça fait pas mal de temps qu'on bosse dessus.
Faut combien de temps justement pour modéliser, parce que ChatGPT, pour nos auditeurs, le fonctionnement, c'est qu'il faut un peu l'éduquer, on va dire. Oui, hein, faut l'entraîner. Ça fait combien de temps que
vous êtes cliente, ça, vous avez souscrit un abonnement chez ChatGPT.
On a des accords avec ChatGPT pour faire cette techno.
C'est ce qu'on font plusieurs entreprises. Hein.
L'intelligence artificielle, on l'a intégrée dans nos outils il y a 5 ans maintenant.
D'accord.
En rachetant une entreprise qui s'appelait Deep Flow Realty, on a été les premiers à permettre à nos clients de générer des textes d'annonces immobilières automatiquement. Ouais. En mettant quelques critères comme le lieu, la surface, le prix, etc. Okay. Depuis 5 ans maintenant, dans Hector, vous pouvez générer automatiquement vos annonces.
Donc sans faute d'orthographe.
C'est presque ça.
Ouais. Pas de faute de participation, vous êtes sûr.
Franchement, on a une IA qui fait que ça. Alors pour le reste, elle est nulle, mais pour ça, elle est pas trop mal. Elle est pas trop mal et elle le fait plutôt pas mal.
Vous parliez d'OpenAI avec ChatGPT. Oui. Donc vous participez à leur IPO actuellement?
Alors non, je ne participe pas à leur IPO, non.
Voilà. Non. Ils rentrent en bourse dans quelques jours ou non?
D'accord, non, je ne suis pas.
Pour terminer, donc ça fait 5 ans que vous étiez en cours de développement, que vous avez incorporé l'IA.
Alors là, depuis à peu près un an, nos équipes bossent effectivement sur la version ChatGPT. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup
de
ressources.
Parce que là, c'est juridique, donc c'est plus complexe.
Il y a beaucoup d'aspects techniques.
Pourquoi vous avez choisi cet outil? Parce qu'il y en a d'autres, l'outil d'intelligence artificielle.
Oui, on en a testé d'autres. Ouais, et c'est celui-ci qui nous a bien plu. Après, ça pourra changer dans le temps. Mais pour l'instant, c'est avec lui qu'on bosse.
On vous a étudié Bard aussi. Vous n'avez pas dit, tiens, je vais créer mon propre algo.
Non, j'ai ni le temps, ni l'envie, ni les compétences, certainement.
Non,
c'est...
Les compétences, vous savez l'aller chercher.
Non, mais c'est des années de travail.
Il y a des boîtes qui font tellement ça de bien que...
Bien sûr. Et puis, c'est fait pour ça. Ce sont des produits qu'on a maintenant sur étagère qui nous permettent de doper les nôtres. Donc nous, on se concentre sur nos savoir-faire, sur nos briques, et puis grâce à ces opportunités, on vient doper notre...
Et j'imagine que c'est une demande des clients aussi.
Oui.
Alors, ils ne nous appellent pas spécifiquement pour nous dire bonjour.
On sent qu'il y a un usage.
Mais ils sont bien entendu en droit d'exiger de pouvoir bénéficier des tendances du moment. Les tendances du moment, c'est notamment l'IA. Donc, bien sûr qu'ils sont demandeurs. Ils attendent de nous qu'on les fasse évoluer grâce à ces
opportunités. Si on devait aujourd'hui résumer la boîte IMO, finalement, c'est vraiment dans le sens du mot « la boîte ». Puisqu'il y a tout dedans, c'est vraiment une boîte à outils. Vous avez donc Protexa avec le registre des données, vous avez un outil de gestion locative, vous faites, en plus il est prédictif, puisque finalement l'intelligence artificielle, finalement c'est une façon d'avoir des outils prédictifs. Vous avez Intercabinet, alors Intercab c'est le grand concurrent de la MEPI, attendez... Ne me dites pas non.
Alors, non, mais si vous voulez, ça ne me dérange pas.
Vous êtes concurrent de la MEPI et d'un nouveau d'ailleurs dispositif qui a été lancé par l'équipe de Henri Buzicazo et de Bernard Cadeau qui s'appelle Listigo.
Alors, pour expliquer à nos auditeurs, c'est du partage de mandats. C'est bien ça.
Alors, mais pas que les mandats d'exclusivité, je crois.
Non. Alors,
parce que la MEPI, c'est que l'exclusivité.
Oui. Et puis
chez Intercab, on a tout.
On n'est pas vraiment sur la même typologie de clients. Je veux dire, nous aujourd'hui, la MEPI.
Comme vous n'êtes pas concurrent de la MEPI.
Non, pour une raison très simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dis
d'accord,
non.
Okay.
Parce que j'ai des clients qui utilisent les deux. Donc, vous avez des clients qui utilisent la MEPI parce que ça leur permet de travailler avec les réseaux et que la MEPI est très bien représentée dans les réseaux. En revanche, elle est très très peu représentée chez les indépendants. Et nous sommes beaucoup. Donc, moi, j'équipe 8000 indépendants avec cette plateforme communautaire et de partage.
8000 indépendants, ça signifie combien d'utilisateurs au quotidien sur les 8000?
Un peu plus de 45 000.
D'accord. Ah oui, quotidien.
Oui, bien sûr.
Ah oui.
Et puis, on a pris la décision d'agréger non seulement les mandats exclusifs, mais aussi les mandats simples. Donc, on a un potentiel qui est complètement différent de celui des plateformes que vous citez.
Et Listigo, par exemple, qui prend tout aussi, qui prend exclu, simple.
Je les rencontre beaucoup moins que d'autres, donc je ne peux pas trop vous en parler.
Ça vous plaît, ça vous challenge, vous, quand on essaye de vous botter les fesses?
Bien sûr. Et puis, je n'ai pas été promis à faire une plateforme
taquiner,
moi-même.
On va essayer, etc. Est-ce que ça
maintient en forme, en tout cas.
Est-ce que Olivier Buget, il a le côté
s'endormir.
Warrior
Il a le côté, il ne faut pas s'endormir, parce que les réveils sont difficiles.
D'ailleurs, une des ambassadrices, c'est Sarah Véricel, que
on aime beaucoup. On a la chance d'avoir Sandra Véricel, qui est notre ambassadrice Intercab,
qui utilise
et qui
Intercab
nous apporte sa, son image, sa notoriété.
Alors nous, je vais vous dire, nous aimons Ouais. Sandra Birisset.
Bah, nous aussi. Voilà.
On amène son rond de cerviès avec son nom gravé.
Je crois que c'est nous qui vous l'avons emmené.
Ouais. Ouais. Absolument. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai vu une très jolie émission la semaine dernière.
Oui, elle est top. Oui. Et juste pour en revenir à ce partage de mandat, parce que c'est vrai que parfois ça peut avoir un peu mauvaise réputation, mais il y a des chiffres qui le prouvent. Hein. Ça augmente vraiment le chiffre d'affaires des personnes qui utilisent des agents.
Il n'y a plus de débat, mais
c'est ça.
J'en entends encore un petit peu par moment, mais les chiffres le prouvent en tout cas.
Le partage c'est devenu un nouvel usage. C'est devenu
surtout en ce moment.
Oui.
Surtout en ce moment, les stocks ont été reconstitués en 2023 et ont été multipliés par 4. Mmh. On est passé de 150 000 mandats actifs dans notre clientèle à 450
000.
De 150 000 à 450
000. Vous avez actuellement, là vous
actuellement, avez 450 on a passé la barre des 500 actifs. 000 mandats.
Ah ben
bien sûr.
Voilà. Je vous rappelle. Ça coûte combien quand on est sur Intercab? C'est Office ou c'est un abonnement?
Non, nos clients qui utilisent nos outils ont d'office accès à Intercab, donc c'est sans aucun surcoût.
Est-ce que je peux souscrire Intercab? C'est des questions directes, sans avoir les autres outils de la boîte IMO.
Aujourd'hui, vous devez avoir Hector pour pouvoir avoir accès à Intercab.
D'accord, Hector, c'est le logiciel de gestion.
C'est votre logiciel métier. Et ce logiciel métier vous ouvre une porte qui s'appelle Intercab.
Si j'ai un autre logiciel, je ne peux pas avoir l'Intercab.
Pour le moment, non.
D'accord.
Non, c'est une politique de notre part.
C'est stratégique. Non, mais c'est stratégique.
Oui, bien sûr.
C'est stratégique. Vous ne pouvez bénéficier d'Intercab que si vous êtes client Hector. Moi, je trouve ça hyper ingénieux. Vous faites du cross-selling hyper intelligent.
Mais demain, on n'exclut pas de s'ouvrir à d'autres outils et à d'autres marques.
Vous connaissant, j'en suis certain.
On n'a pas de tabou.
Alors, on parle d'actualité, justement. Vous parlez du nombre de transactions. Un petit perspective 2024. Comment vous voyez l'année? Donc, il a déjà bien commencé, hein, puisqu'on est en février, mais
alors, nous, ce qu'on constate déjà sur janvier, c'est que les volumes de vente, malheureusement, continuent un peu de baisser. Ouais. En revanche, les prix, eux aussi, continuent à être dans une tendance baissière. Donc,
d'accord.
On est plutôt serein parce que quand on interroge nos clients, ils sont 70% à considérer que les prix vont baisser dans le courant de l'année 2024. La moitié disent entre 3 et 5%.
Oui.
L'autre moitié dit au-delà même des 5%.
C'est ce que disent les fédérations. Oui.
Et si les prix, effectivement, continuent de baisser et que, parallèlement à ça, on a des taux qui, eux-mêmes, non seulement se sont stabilisés, mais en plus commencent à atterrir autour de 3,9, 4%. Mmh. Et qu'en plus de ça, on a le retour en grâce des banques qui elles-mêmes prêtent à nouveau et à nouveau ont envie de faire leur métier de banque et de délivrer du prêt immobilier. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même beaucoup des conditions qui sont réunies pour que ça reparte parce que la demande reste extrêmement forte. Elle est délicate cette demande parce qu'on a un peu plus de 7 ménages sur 10 qui peinent à avoir accès au crédit parce que les conditions c'était rendu plus difficile ces derniers mois, mais la demande a toujours été là et l'offre est là aussi. Donc il y a tous les ingrédients qui sont présents pour que les choses repartent. Les acheteurs.
Mais à votre avis, le côté, c'est très intéressant ce que vous dites, que je partage complètement votre point de vue. Quel est l'impact politique? Je sais que vous faites pas de politique, mais politiquement, quel serait le signal fort qui fera repartir un peu plus la machine, qui restaurerait la confiance, voyez par exemple.
Mm-hmm. En 2023, vous avez deux populations qui ont quasiment disparu du marché: les primo-accédants,
c'est clair,
et les investisseurs. Aujourd'hui, au-delà de toutes les mesures dont on peut parler, etc., me semble qu'une mesure extrêmement simple pourrait être de se pencher sur la fiscalité liée à la possession de biens immobiliers. Aujourd'hui,
donc le statut du bailleur
privé
est
confiscatoire.
Ouais.
Exemple,
le parc locatif
réformer
privé,
les filles, par exemple, choses comme ça.
Peut-être. Le parc locatif privé, c'est le premier parc locatif de France, bien loin devant le parc locatif public.
Social.
Si on veut que les Français, vous, moi, des couples de retraités, des jeunes adultes, préparent leur retraite modestement en achetant un, deux appartements. Si on veut que ces
leur
gens-là reprennent leur rôle d'investisseur, il faut arrêter de les matraquer. Aujourd'hui, les rendements sont ridicules. Donc,
est-ce que vous observez...
La bonne nouvelle, c'est que le nouveau ministre du logement, Guillaume Kasbarian, va en ce sens. Hein.
Je ne sais pas
il
si
a l'air...
Plus que Patrice Vergès.
Bérénice est très positive par nature. Moi, je dis que c'est plutôt de la fumée historique qu'autre chose. Mais justement,
rapidement, parce que chasse à 20.
Quand vous dites que ça repart, que vous parliez de la fiscalité, quand vous voyez que le Parlement aujourd'hui examine un inversement de la fiscalité, et Airbnb, vous savez, vous en avez beaucoup parlé, et que finalement, vous voyez une inflation de la fiscalité des petits propriétaires, vous ne voyez pas dans votre réseau finalement des ventes, des investissements, des tout petits propriétaires qui disent c'est fini, c'est plus rentable, j'en ai marre, je vends?
Ah ben clairement, ils ont disparu en 2023. On avait 30% des ventes qui étaient générées par les investisseurs.
Et
cette part est passée à 15%. Ils vendent, disons que la période n'est pas forcément super propice.
Mais je comprends.
Entre ça et les passoires thermiques, où ces petites surfaces en plus sont concernées encore plus que les autres par cet étiquetage défavorable.
Ouais, mais ça devrait changer. Encore une fois, je suis positive. Mais...
Oui, alors ça va changer temporairement. Il y a 140 000 logements qui sortent de ce dispositif jusqu'à ce qu'ils passent en étiquette F.
Exactement.
Voilà. Sûr, ouais. Mais quand même, c'est un signal positif. Moi, je trouve que il y a plutôt des bonnes nouvelles en ce moment. L'ambiance était moins agréable au mois de novembre, au mois de décembre.
Le gouvernement ne parlait pas de logement, donc forcément, maintenant, ils en parlent.
Absolument. Donc, il faut voir ça de façon...
Alors, ils en parlent parce que Vox Populi, voilà, la pression.
Exactement. L'émission touche à sa fin. Avant de nous quitter, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end? On est vendredi.
Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait ce week-end?
Alors, je vais emmener
mon fils...
Parce
qu'en plus, vous vivez dans un endroit magnifique, là-bas, hier.
Ah, je vais reprendre mon avion, déjà, pour rentrer hier, effectivement, demain. Je vais emmener mon fils à son tournoi de basket, mon autre fils à son tournoi de rugby. Et je vais aller faire un peu du vélo dans la colline, parce que ça fait du bien.
Sympa.
Et puis, certainement que ma femme m'aura trouvé plein de choses à faire.
Est-ce qu'on
cuisine chez la famille Bugette?
Alors... Pas trop.
On se fait livrer ?
Pas trop, ouais, on se fait livrer.
Dernière question, Jimmy Sax Time, pourquoi ce choix ?
J'adore ce son, j'adore cet artiste, et surtout, quand je l'ai vu faire, je sais pas si vous avez vu son clip, si c'est pas le cas, je vous encourage à le regarder.
Je savais même pas qu'il existait.
Fait son son tout seul, c'est-à-dire que le saxo, c'est lui, les percus, c'est lui, le piano, c'est lui,
et
la guitare, c'est lui, et la voix, c'est lui, et il fait l'arrangement pendant.
C'est dingue.
Et en fait... Il m'a fait penser un peu à un agent immobilier qui s'occupe de tout, dans tous les sens, et qui fait son truc comme un artisan, et à la fin, ça donne un son incroyable.
Mais attention, un agent immobilier qui utilise ma boîte IMO.
Évidemment. Moi, j'ai appris quelque chose, je ne savais même pas qu'il existait, ce monsieur.
Jimmy Sax, écoutez Time, et vous verrez que c'est
merci
c'est superbe.
Beaucoup, Olivier Bougette. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Mac de Libo avec Jean-Philippe Dugoin-Clément. Merci.
Oui, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région Île-de-France en charge
tout
du logement.
Fait.
Président de Grand Paris Aménagement, maire de Mennecy et vice-président de l'Association des maires d'Île-de-France.
Tout à fait.
Un grand monsieur du logement.
Très bonne semaine à vous sur
Radio Imo.
Merci Olivier Bugette.
Mac de l'Imo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier en partenariat avec Opinion System, Promis et Bien Ici, à retrouver sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.